Bien-aimé en Christ, bonjour. Voilà. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler de l'adoration de Dieu. Peut-être que vous attendez à un sujet plus compliqué, plus subtil, plus raffiné. Mais ça fait un moment que je suis sur ce sujet et je n'en ai pas bougé. Il m'est arrivé parfois, il est vrai, lorsqu'on me demande d'apporter quelque chose, de changer de sujet, si le Saint-Esprit m'y pousse. Mais cette fois-ci, bon, je suis resté ferme. Alors nous allons rester dans l'adoration. Amen. De toutes les façons, c'est un culte. Et nous sommes dans l'adoration. Luc, chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Plusieurs versions me disent à peu près la même chose. Par exemple, la version Grand Pont, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu ne rendras de culte qu'à lui seul. La version Narbe, par exemple, dit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais nous voulons dire exactement la même chose. Donc, le titre de cette méditation, c'est « L'adoration don de Dieu » ou « Rendre donc un culte à Dieu ». J'ai pris le dictionnaire biblique et la définition. Adorer ou se prosterner, c'est tout simplement manifester un respect religieux impliquant que la personne qui en est l'objet est regardée comme divine, ici Dieu. L'homme, donc, ne doit adorer que Dieu. Ça paraît évident, mais vous verrez que ce n'est pas toujours évident par la suite. L'hébreu se sert du même terme, se prosterner, ce qui veut dire adorer, pour exprimer donc le respect témoigné à Dieu. Il était absolument interdit d'observer donc cette attitude à l'égard des idoles. C'est ainsi donc que notre Seigneur Jésus a résumé et défini l'adoration authentique. Il a affirmé donc son caractère exclusif en reprenant, je dirais, les premières déclarations officielles faites à ce sujet par Moïse dans le livre du Deutéronome, et en particulier au chapitre 6 et au verset 4 et 5. Je vous le lis parce qu'il y a pas mal de lecteurs. Écoute Israël, moi je dirais aussi écoute Église de Toulouse-Ouest, l'Éternel notre Dieu est un, c'est-à-dire le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est donc un amour spirituel intense, une ardeur intense pour Dieu, car lui seul est l'unique Dieu. C'est par ces paroles que fut établie en quelque sorte, je dirais, la charte de l'adoration, c'est-à-dire la loi fondamentale de l'adoration du Tout-Puissant, définissant la base et le but de ses relations avec l'homme. Dieu seul a le droit d'être adoré par l'homme, car il est, comme vous le savez, le Créateur. Apocalypse, chapitre 4, verset 11, il est dit, « Car tu as créé tout, sans exception, ce qui existe. » Il est donc digne à cause de son œuvre de rachat en faveur de tous les hommes. Apocalypse au chapitre 5, au verset 13, il est dit « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la force au siècle des siècles. » Et au verset 13, il est repris « L'agneau qui a été immolé ou égorgé selon les versions est seul digne de recevoir premièrement la puissance, deuxièmement, la richesse. Troisièmement, la sagesse. Quatrièmement, la force. cinquièmement l'honneur, sixièmement la gloire, et septièmement la louange, chiffre 7, chiffre de la perfection. Cette adoration exclusive de Dieu est un commandement à garder dans son cœur, à mettre en pratique surtout et à enseigner également. Et les versets 4 à 9 de Deutéronome chapitre 6 sont comme la confession de la foi juive. Jésus en a aussi souligné l'importance en le désignant comme le premier et le plus grand commandement. Marc chapitre 12 au verset 28, où il est parlé donc de spécialistes de la loi. J'ai lu qu'il n'est pas rare dans la région parisienne, où les synagogues se sont pas mal multipliées ces dernières années, de voir à droite de la porte des occupants occupés par des juifs une petite boîte allongée contenant ce texte du Deutéronome. Peut-être n'est-il qu'une formule rituelle pour beaucoup d'entre eux, malheureusement. Qu'en est-il pour les chrétiens ? Point d'interrogation, qu'ils prennent garde, eux aussi, de ne pas tomber dans le formalisme. Le caractère particulier de l'adoration, vraie et exclusive de Dieu, entraîne des conséquences bien précises dont il est bon de se souvenir. Je le répète, c'est comme un leitmotiv. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Il ne suffit pas de le dire, il suffit de le faire. De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie, toute ta force. Nous allons voir ensemble quatre points. Le premier, pas d'adoration des faux dieux. Vous avez l'air étonné. Deutéronome, chapitre 6, versets 14 et 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, c'est-à-dire vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Ésaïe 42, 8 reprend. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. L'honneur de Dieu, je dis bien. L'Éternel est jaloux donc de sa gloire, et il est jaloux aussi de son honneur. Il ne supporte pas de transfert aux idoles, et Dieu sait que nous en avons des idoles, ni de partage avec les faux dieux, et Dieu sait que nous en avons des faux dieux, entre guillemets. Respecter cet ordre est capital, car l'orgueil inné fait facilement oublier à l'homme, à l'être humain, et même aux croyants, l'auteur divin des bienfaits, et oui, des bienfaits matériels et spirituels dont il est gratifié. Deutéronome 6,12. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est un rappel à l'ordre. Et avec quelle facilité on peut faire dépendre son bonheur, c'est vrai, des biens matériels, et non de Dieu qui les dispense. David disait, je vous le lis, psaume 16 à partir versets 4 et 5, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage, l'Éternel est ma coupe ou mon calice selon la traduction, c'est toi qui m'assures mon lot ou la part que j'ai reçue. L'apôtre Paul le reprend d'ailleurs dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 2, je vous le lis. Il nous exhorte maintenant en ces termes, car je suis jaloux, dit l'apôtre Paul, d'une jalousie sainte de Dieu. Vous voyez, il y a des jalousies saintes qui existent. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, comme une jeune fille pure. c'est notre union intime avec Christ. Donc, l'image de l'Église comme épouse, parce que nous sommes, mes bien-aimés, membres de son corps, nous demeurons aussi dans le Fils automatiquement et aussi dans le Père. Deuxième point, vous allez être étonnés, pas d'adoration du diable. Qu'est-ce qu'il va chercher, Gilbert? Mais non. Est-ce possible de la part de ceux qui appartiennent à Dieu? Point d'interrogation. On peut se le demander. C'est pourtant la folle ambition de Satan, je dis bien ambition de Satan envers les rachetés. Il suffit de se souvenir de ses tentatives auprès du Fils de Dieu lui-même lorsqu'il le tenta dans le désert pendant 40 jours, dans Luc au chapitre 4. Nous pouvons en déduire que les plus sollicités et les plus tentés par le diable sont les vrais croyants, ceux qui sont nés donc de nouveau. Ces croyants-là aussi devraient comprendre que leurs épreuves et leurs tentations sont des moyens de Satan pour les amener à se prosterner indirectement devant lui, à abandonner leur foi et, je dirais, d'abandonner leur foi en Dieu et de s'adonner à l'autre maître, c'est-à-dire au malin. Car Jésus l'a bien précisé, je vous le lis, « Nul ne peut servir deux maîtres ou deux seigneurs à la fois ou être esclave de deux seigneurs. » J'aime bien parole vivante qui dit « Nul ne peut servir deux patrons à la fois. » Ce fut le sinistre pari de Satan aussi, à l'écart de Job, vous connaissez l'histoire. Pourtant, Satan était sûr que sous l'effet répété des épreuves, il pourrait retourner la situation et que Job maudirait Dieu en face. Il échoua car Job demeura fidèle à Dieu et il ne le maudira jamais. Alors que Jésus faisait connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il fût mis à mort, Pierre s'éleva contre cette pensée et Jésus lui répondit sévèrement et ouvertement qu'il venait de se laisser séduire par Satan en donnant libre accès au cours de ses pensées humaines dans Matthieu au chapitre 16. Je vous le lis. Arrière Satan, soit être dur hein, d'entendre son prénom. Arrière Gilbert, arrière Satan. Le Seigneur l'a fait, il connaissait bien Pierre. Il n'a pas dit arrière Pierre. Il a dit arrière Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont humaines. Dans quel domaine et par quelle ruse Satan cherche-t-il à capter la pensée du croyant? La tentation de Jésus-Christ en est l'exemple type. Satan joue sur l'indépendance de l'homme, sur la faculté de l'homme de choisir que Dieu lui a laissé. Tout d'abord, pour décider lui-même des priorités dans sa vie, par exemple, devant la nécessité physique de manger. Après son jeûne forcé, le voyons dans Luc au chapitre 4, il nous a dit que Jésus, le Fils parfait, soumis à son Père, choisit en priorité la satisfaction des besoins spirituels et non pas de se rassasier. En est-il de même de nous? Quel choix avons-nous fait, nous, les biens spirituels en premier ou les biens matériels? Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont donc des paroles de vie, ce sont des armes spirituelles. C'est une authentique vie spirituelle qui doit être en nous. C'est vrai que le chrétien souvent se trouve devant des impératifs humains, des impératifs, je dirais, légitimes. Les satisfaire en premier lieu, au détriment de la vie spirituelle, c'est empêcher l'adoration fondamentale de Dieu. Choisir les moyens de s'élever et de prospérer. Quoi de plus légitime et quoi de plus convenable, me direz-vous? Chercher à parvenir à une situation meilleure, à une abondance plus grande dans les domaines matériels, affectifs et dans tout ce qui fait la vie des hommes. N'est-ce pas envisageable, raisonnable et désirable? Jésus fut mis devant ce choix dans Luc au chapitre 4 et au verset 5. Il avait effectivement le droit de posséder la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Mais c'est du Seigneur, son Dieu, qu'il désirait recevoir cette élévation, tout simplement, et cette richesse. Satan use de finesse, il use d'artifice, il use de tromperie pour amener le chrétien à se prosterner, entre guillemets, devant lui, je dis bien entre guillemets, et apparemment pour de bons motifs. Nous avons la tentation au nom de Jésus dans le désert, comme nous venons de le voir. Mais bien-aimés, méfions-nous. Employer les Écritures et les vérités bibliques sans soumission réelle à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qu'il a inspiré est une séduction qui atteint un nombre toujours plus grand de gens. Il est conduit dans une adoration qui n'est plus en esprit et en vérité. Satan avait déjà cherché à faire adopter par Jésus sa théologie mensongère grâce à son emploi, je dirais, arbitraire des Saintes Écritures. Il a cité quelques versets par-ci, par-là, du psaume 91, pour proposer à Jésus de se jeter en haut du temple. La victoire et l'attitude victorieuse de Jésus, donc, a déjoué tout simplement les ruses de Satan. Et cela nous incite, mes bien-aimés, à sonder les Écritures, sondons les Écritures, à y soumettre nos pensées et nos sentiments, à les avoir abondamment dans l'esprit et dans le cœur. Amen. On passe au troisième point. Je ne le développe pas davantage. Je crois que vous avez compris comme moi. Ce serait de la surcharge. Pas d'adoration des anges. Ah, vous n'allez pas adorer les anges. Non plus. Et pas même de ceux qui sont des esprits au service de Dieu. Définition, Hébreux 1,14. En effet, il était dit, qui sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui héritent le salut. Amen. C'est une bonne définition, ça. Nous avons les anges qui sont avec nous. Pas d'adoration. Bien que cela paraisse surprenant, cette adoration peut être aussi rendue par les croyants. L'apôtre Jean, il fut lui-même porté et il envisage sérieusement la chose lorsqu'un ange lui fit entendre les véritables paroles de Dieu et lui fit voir donc les choses à venir. Vous l'avez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, chapitre 22, etc. Mais il nous est dit que l'ange s'y opposa fermement, exhortant donc l'apôtre à entendre les véritables paroles de Dieu et il lui fait voir donc les choses à venir. Il lui dit, garde les paroles de la prophétie et adore Dieu lui seul. Par contre, l'apôtre Jean a failli adorer l'ange. Il y a donc, mes bien-aimés, un danger à confondre le messager et le message de Dieu, c'est pas pareil. À donner plus d'importance, je dirais, au messager qu'au message et à l'auteur divin du message. c'est un péril spirituel encore présent. Par conséquent, la mise en garde de Paul est toujours actuelle. Galates, chapitre 1er, verset 8, je vous le lis. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile différent, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire livré au malheur. Colossiens, au chapitre 2 et au verset 18, nous dit « Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse, c'est-à-dire ne conteste à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées, excusez-moi charnelles, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire au Christ Jésus. » C'est ainsi qu'on peut annoncer un autre évangile. Oui, effectivement. Il y a l'évangile des mérites. Il y a l'évangile des expériences spirituelles. Au lieu de l'évangile du salut par la croix, on enseigne une autre voie pour régir les relations, je dirais, de Dieu. Celle des signes, celle des miracles, celle des visions, à la place de la parole et du Saint-Esprit qui relient eux seuls vraiment à Dieu. Bien-aimés, restons vigilants, soyons unis, entretenons donc un lien étroit avec Dieu. Une clé quant à l'adoration de Dieu est donnée dans Apocalypse au chapitre 19 et à la fin du verset 10 où il est dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie », c'est-à-dire la vérité révélée par Jésus. Ce qui veut dire que le sujet principal de la parole écrite est la personne de Jésus-Christ. Les prophètes ont pu rendre ce témoignage à Jésus rempli par le Saint-Esprit. En résumé, dans ce passage, l'adoration de Dieu est inséparable de Jésus, car il est Dieu et elle a pour source la parole écrite et le Saint-Esprit. 1 Jean, je vous le lis, 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, on est convaincu, et qu'il nous a donné l'intelligence, on en est convaincu, pour connaître le véritable, c'est-à-dire celui qui est Jésus. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, par notre union avec son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable et celui qui a la vie éternelle. Il nous a dit, petits-enfants, nous sommes des petits-enfants. Gardez-vous des idoles, tenez-vous en garde des idoles, nous dit parole vivante. C'est vrai, nous devons garder notre cœur de la séduction. Ne nous laissons pas attirer, ne nous laissons pas captiver, ne nous laissons pas ravir par l'esprit de séduction du mal. Nous allons voir le quatrième et dernier point. Pas d'adoration de la créature. Pourtant, il y en a dans ce monde des créations d'adorateurs. Hein? La créature, l'être suprême, animal ou être humain. Vous le lirez chez vous. Le texte magistral de Romains commence au chapitre 1er, du verset 18 à 32, démontre que toutes les déviations et les perversions morales proviennent des égarements dans l'adoration. Et dans ce texte, il nous est parlé fortement d'ingratitude des hommes, de la folie des hommes, de l'idolâtrie, de l'abandon, du rejet, de la vérité captive, de la culpabilité de l'homme, de la décadence de l'homme dans ce texte, de la méchanceté de l'homme. Il nous est parlé aussi de corruption, de convoitise et de passion mauvaise. L'être humain, naturellement religieux, il a besoin d'être religieux un petit peu. Il a besoin d'adorer, de mettre, je dirais, sa fierté en quelqu'un ou en quelque chose, un homme d'État, un homme politique, un homme de spectacle, et de lui rendre un culte, entre guillemets, par ses pensées, de lui rendre un culte à cet homme-là, par ses sentiments ou par ses actes. Mais l'homme, il s'est écarté et il a corrompu quant à l'objet de son adoration. Et il substitue, il transfère aux idoles humaines et animales, je dirais, la louange qu'il doit exclusivement au Dieu impérissable et glorieux. Cette déviation dans l'adoration est contre toute logique. Dans Ésaïe, vous connaissez ce passage, au chapitre 44, verset 16, il donne l'exemple d'ailleurs qui fait sourire, de cet homme qui brûle la moitié de son bois pour cuire ses aliments, se chauffer, et avec le reste, il se fait une idole pour se prosterner devant. C'est banal. Mais vous savez que le culte que les Tyriens et les Sidoniens rendaient à Hérode, qui était pourtant leur tyran, leur assassin, était insensé. Au lieu de se révolter contre Hérode, contre lui, ils s'écrièrent dans Actes au chapitre 12, verset 22, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Flatterie humaine, vous connaissez la suite. La mort. Et que dire des Israélites qui, sous l'intitulation d'Aaron, vous le savez, firent une fête en l'honneur de l'Éternel. Avec quelle fête, parlons-en. Ils se firent un veau d'or. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le livre de l'Exode dont nous apprend aussi que l'usage du parfum dans le culte de l'Éternel pouvait devenir aussi l'occasion d'une idolâtrie, puisque l'ordre était formel, je vous le lis. Quiconque en fera un de semblable, c'est-à-dire un parfum, pour le sentir, pour jouir de son odeur, sera retranché de son peuple. Au chapitre 30 donc de l'Exode. L'adoration de certains dont s'échangea sans doute, je dirais, à une jouissance des sens. On sait d'ailleurs la part qu'ont les sensations et les sentiments dans les rites religieux. Dieu qui sait comment le cœur humain peut se corrompre dans son adoration a bien eu le soin de dire aux Israélites, je vous le lis, Deutéronome, chapitre 4, versets 15 et 19. Puisque vous n'avez vu aucune figure, c'est-à-dire aucune forme, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, c'est-à-dire un Dieu invisible à l'œil humain, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation, une effigie de quelque idole, la figure d'un homme, d'une femme, la figure d'un animal, qu'il soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Recommandation, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, t'a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Amen. Nous avons donc un Dieu qui possède l'immortalité, qui habite, nous est-il dit, une lumière inaccessible, qui nous met donc en garde, bien-aimé encore ce matin, contre la corruption, en garde contre l'idolâtrie, en garde contre la folie des hommes, contre la décadence humaine. Veillons avec soin, soyons des frères et des sœurs sages. Mais le vrai chrétien, sommes-nous des vrais chrétiens, peut-il dévier et se pervertir dans son adoration? Les avertissements du Nouveau Testament montrent que le chrétien peut se tromper d'objet tout en professant adorer Dieu. Si Paul a dû rappeler aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19, que leur corps était le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes la propriété divine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est que le croyant est capable, entre guillemets, de s'adorer lui-même, oui, tant son corps que son esprit. Chez certains juifs de l'époque, l'observation des règles alimentaires était finalement plus importante que l'adoration elle-même de Dieu. C'est là aussi une déviation qui peut se retrouver chez celui qui est préoccupé à l'excès, je dis bien à l'excès, par une question de diététique, de régime, de nutrition. Il est dit, car le royaume de Dieu, le règne de Christ, ce n'est pas le manger et le boire. Romains, chapitre 14, verset 17. Les Philippiens, ils enfoncent le clou. Et il dit, 3, 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Toutes leurs pensées sont dirigées vers les choses de ce monde. Et là, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, hein, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Je répète, Matthieu 6, 24, vous ne pouvez être esclave, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire Mammon représente les biens temporaires, représente l'argent. Et la version Semeur nous dit, nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, affirme donc notre Seigneur Jésus. En effet, le racheté vit au ralenti. Sa vie spirituelle est au ralenti quand son cœur s'attache aux richesses. Mais il est encore autre chose, qui comme un courant puissant éloigne de l'hommage rendu à Dieu. C'est l'orgueil. L'orgueil inné dans l'être humain qui fait rechercher la gloire terrestre, qui fait rechercher les honneurs, qui fait rechercher le pouvoir. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire que vous recevez, que vous tirez votre gloire les uns des autres et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? On sait malheureusement dans quel état triste et moral et spirituel était amenée donc cette église de Corinthe. Ils étaient préoccupés d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas de place dans leur cœur pour la recherche donc exclusive de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, connaissant les conséquences et les déviations, les perversions dans le culte rendu à Dieu, le disciple, c'est-à-dire nous, chacun de nous, doit se méfier des influences extérieures et des incitations de sa nature pécheresse. Je vous le lis, Exode 34, versets 14 à 16. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, comme nous l'avons déjà vu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituent à leur Dieu et leur offrant des sacrifices. Ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à d'autres dieux. Il est tout simplement parlé dans ce passage d'adultère spirituel, d'abandon des valeurs de Dieu, de mauvaises influences. Mais bien aimés, méfions-nous des mauvaises influences. Méfions-nous, mes bien aimés, des faux amis, nous éloignant de la présence de Dieu. En conclusion, parce qu'il faut bien une conclusion à toutes les choses, le but ultime, je dirais, de l'avertissement à ne pas dévier, ni de se corrompre dans l'adoration de Dieu, c'est qu'elle doit être d'ordre spirituel et non psychique. L'homme a été créé, nous est-il dit, à l'image de Dieu qui est esprit. Et son adoration doit être donc, comme nous l'avons vu, en esprit et en vérité. Seul le Saint-Esprit reçu de Dieu rend capable d'adorer Dieu et de la bonne manière. Jean 4, 24, sur parole vivante, je l'ai recopié. Dieu est un être spirituel. Prenons exemple. Parole pour moi. Hein. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer, c'est nous, lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. On est d'accord? Le besoin et la puissance d'adoration donc, qui sont à l'homme viennent de Dieu. Et c'est à Dieu que ces facultés donc doivent retourner. Écoute Israël, je me repermets, écoute Église de Toulouse-Ouest, l'Éternel notre Dieu, je le répète, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, pas un esprit religieux quelconque, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Je terminerai par un verset d'Apocalypse au chapitre 4, verset 12. Tu es digne. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur, puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Amen. À ta volonté, nous est-il dit, que notre Seigneur soit béni. Nous allons nous recueillir, si vous le voulez bien, et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre ce culte qui t'est dû, ce culte raisonnable, ce culte en esprit, en vérité, parce que tu es notre Dieu, notre Roi, notre seul Seigneur, notre seul Créateur. Et Seigneur, nous ne voulons point courir après d'autres dieux étrangers qui entraveraient notre vie spirituelle, parce que nous avons besoin de grandir et d'aller de l'avant. Seigneur, garde-nous de toute déviation. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, afin que cette Église puisse aller de l'avant en étant une maternité spirituelle qui enfante des âmes nouvelles. Bénis mes frères et mes sœurs, fais-leur du bien, renouvelle-nous, Seigneur, que nous puissions grandir dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.